France Culture.
France Culture. Carnet de santé. Marina Carrère d'Encausse.
Âge critique, hiver des femmes, verte vieillesse. Voilà quelques-unes des expressions qui décrivent la ménopause. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est guère réjouissant. Clairement, cette période incontournable signe trop souvent à la fois l'entrée dans la vieillesse et la fin de la fertilité. Et pourtant, si ce dernier point est généralement vrai, le premier est plus qu'à nuancer, puisqu'aujourd'hui, les femmes passent quasiment un tiers de leur vie ménopausée. Et toutes les femmes sont bien sûr concernées en France. Elles sont plus de 17 millions, mais malgré ce nombre très impressionnant, le sujet est encore tabou. D'après une étude récente, 44% d'entre elles disaient ne pas en avoir parlé avec leur médecin, alors qu'elles sont très nombreuses à souffrir de bouffées de chaleur, de douleurs articulaires ou encore de troubles urinaires pour ne citer que cela. Alors comment expliquer ce silence autour d'une étape physiologique et obligatoire de la vie? Quel regard a-t-on porté et porte-t-on aujourd'hui sur ces femmes ménopausées? Que leur proposer pour les soulager? Le traitement hormonal de la ménopause si décrié il y a quelques années est-il réhabilité? Pour répondre à toutes ces questions, nous sommes avec le docteur Thelma Linet. Thelma Linet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue, obstétricienne, enseignante à la faculté de Sorbonne Médecine, auteure de « La ménopause, si je veux », ça vient de sortir aux éditions Albin Michel. C'est un très bon livre qui, ça n'existe pas en français, mais qui détabouise en plus, c'est comme ça qu'on pourrait le dire, cette période de la vie. Le 18, ce sera la journée mondiale de la ménopause, preuve que ce thème quand même est important. Et pourtant, je le disais, il reste tabou, alors que chaque année, 500 000 nouvelles femmes âgées en moyenne de 51 ans entrent dans cette période sans être souvent bien informées. Alors c'est vrai que la parole commence à se libérer avec les témoignages de célébrités, de personnalités dans les médias, sur les réseaux. C'est très récent. On va parler avec vous de la ménopause, du vécu de vos patientes, mais aussi du vôtre. Avant, on va faire un petit peu d'histoire, parce qu'on est assez étonné de constater qu'il faut attendre 1821 pour qu'un médecin français invente ce mot ménopause. Pourquoi, si tard, est-ce qu'on s'intéressait très peu à la santé des femmes, ou est-ce que, en fait, les femmes vivaient surtout moins longtemps ménopausées?
Oui, c'est ça. En fait, c'est assez drôle parce que dans le monde entier, en fait, on a vécu jusqu'à 25-35 ans pendant très très longtemps, jusqu'en 1800. Et ça, ça m'a beaucoup étonné, en fait, en travaillant le côté sociaux de la ménopause, c'est que même en Chine, où on imagine que la médecine était quand même plus évoluée pendant longtemps, en fait, l'espérance de vie humaine, en fait, n'augmente qu'à partir de 1800, avec l'apparition de ces femmes qui sont, du coup, ménopausées. Et avec ce phénomène qu'on ne comprend pas, parce qu'il est assez rare, en fait, jusqu'à présent, et qui devient plus fréquent. Et c'est pour ça qu'on est obligé de mettre un mot sur quelque chose qu'on ne connaît pas, en fait.
Alors, on ne le comprend pas, ça c'est clair, puisque vous racontez que la ménopause était citée comme cause de maladies mentales, comme la fureur kleptomane ou sexuelle. Au début, on comprenait quoi de cette maladie, de cette étape de la vie?
Oui, en fait, on a vite pathologisé la ménopause, ouais. C'est devenu une maladie, il fallait faire un diagnostic, il fallait envisager un traitement, c'est resté très longtemps. On a encore cette notion aujourd'hui que c'est une maladie qu'il faudrait diagnostiquer et traiter. Et on comprend vraiment rien, parce que le cycle menstruel, la découverte, c'est 1928, quand on commence, on n'a même pas fêté les 100 ans du cycle menstruel encore. Donc, on navigue à vue des médecins qui comprennent pas ce qui se passe. Et évidemment, quand on envisage ça sur un point de vue médical, et surtout à l'époque où l'ambiance n'était pas très favorable à ce que pouvait être une femme, forcément, ça poser des problèmes, il fallait que ça donne des soucis, et notamment des soucis mentaux. Ouais.
Alors on est plus d'un siècle plus tard, on comprend bien les choses maintenant. Il n'empêche que le tabou persiste. Quelques chiffres, il y a 48% des femmes de moins de 50 ans qui considèrent qu'il est difficile de parler de la ménopause. 38% ne savent pas à qui en parler. Je le disais, 44% d'entre elles disent même ne pas en avoir parlé avec leur médecin. 46% des femmes préménopausées n'en ont jamais parlé avec leur conjoint. Ouais. Comment aujourd'hui on comprend ça?
Je pense qu'il y a plein de facteurs. Il y a un facteur de jeunisme aussi. Je pense que le fait d'avoir 40 ans et de sentir que les choses bougent, on n'ose pas en parler parce qu'on va passer pour une personne vieille. On commence à avoir déjà des symptômes, mais on dit non, c'est pas ça parce que j'ai toujours mes règles. Et puis ça, c'est une instauration qui est progressive, la transition de ménopause. Donc il y a ce côté un peu là. Et puis on connaît pas tous les symptômes. Tout le monde parle des bouffées de chaleur, mais elles sont pas toujours envahissantes. Il n'y a pas que ça aussi. Je pense qu'il y a vraiment cette notion de il faut paraître jeune. Il faut paraître belle, il faut paraître forte. Dans une période à la quarantaine où justement on a besoin d'être forte, il se passe plein de choses d'un point de vue personnel et professionnel. Donc je pense qu'il y a vraiment cette limitation psychique, en fait, de parler de choses qui pourraient laisser passer pour une personne un peu périmée sur le déclin, en fait.
Périmée. Pour faire très simple, la ménopause, bon, c'est l'arrêt de sécrétion hormonale par les ovaires, mm-hmm. qui entraîne notamment un arrêt des règles, mais c'est pas l'arrêt des règles qui est la ménopause, c'est l'arrêt de sécrétion. Et vous disiez, effectivement, parfois on en parle comme d'une maladie, on va parler des symptômes, mais comme d'une maladie, c'est pas entièrement faux, dans la mesure où à partir de ce moment-là, il y a une augmentation du risque cardiovasculaire, il y a une fragilisation de l'os à l'origine de fractures, donc c'est quand même quelque chose qui n'est, or qui est certes naturel, ou j'allais dire plutôt physiologique, mais qui a des conséquences quand même réelles.
Ben en fait, c'est la ménopause, c'est surtout le déclin d'une hormone qui s'appelle le stradiol surtout en fait, et c'est une carence. Ce qu'on vit en fait en termes de symptômes, c'est la carence de cette hormone et des conséquences que ça va avoir sur le corps. Donc c'est un phénomène qui est lié au vieillissement, ce qui n'apporte pas une maladie en tant que telle, mais qui va apporter, qui peut apporter secondairement des maladies comme les fractures liées à l'ostéoporose. Donc oui, c'est ce phénomène lié à la carence qui pose vraiment problème et qui peut amener à se sentir mal et peut-être plus tard déclencher des problèmes cardiovasculaires par exemple. Ouais.
Alors les symptômes, ils peuvent être très variés. C'est vrai qu'on connaît le mieux, ce sont les bouffées de chaleur, qui donnent en général des troubles du sommeil, les douleurs articulaires, une prise de poids. Il y a d'autres troubles, lesquels ?
On a toute la partie génito-urinaire qui est souvent très tabou, toute la partie intimité, sécheresse, douleur, libido.
Très mal connue.
Ouais, très mal connue. Puis encore là aussi, c'est déjà que on a l'impression d'être vieille. Alors si en plus on parle de ça, ça devient encore plus compliqué. On a la sécheresse cutanée qui s'aggrave de partout, qui fait partie aussi du jeu. Les douleurs articulaires, on en a parlé, mais c'est vrai que c'est presque la moitié des femmes et c'est un truc sur lequel on parle assez peu et qui peut vraiment être pénible. Puis il y a ce brouillard mental aussi, cette sensation.
Ah, qui est très peu connue.
Ouais, cette sensation d'être molle, de perdre la mémoire, de ne pas se reconnaître. Ça sent vraiment comme une... Alors, on peut avoir une dépression, hein, mais on a vraiment des symptômes qui font penser à une dépression. Et c'est en fait aussi lié au sommeil qui est vraiment très, très mauvais. Et des conséquences de ce très mauvais sommeil qui est lié à la carence hormonale.
Ça apparaît au moment de la ménopause ou est-ce que ça peut apparaître avant dans ce qu'on appelle la préménopause qui liée au fait à la diminution progressive des hormones? Ça peut apparaître combien de temps avant?
Alors, en fait, ça, c'est une grosse découverte que j'ai fait en préparant le livre, en fait, parce que j'en avais pas autant conscience que ça, en fait, qu'il y a 44% des femmes qui le vivent 11 ans avant la ménopause.
11 ans avant?
11 ans, ouais. C'est, tu te soignes. C'est vraiment.
Donc, c'est dès la quarantaine, quoi.
Ouais. C'est quelque chose qui commence très, très tôt, et qui, en fait, va arriver progressivement. Alors, comme c'est toutes ces choses un peu progressives, on s'y habitue jusqu'au moment où on s'y habitue plus, hein, et on décompense. Mais faut savoir vraiment que c'est la grande majorité des femmes va vivre ça bien avant la ménopause. C'est pour ça que ce diagnostic de ménopause, moi, il m'embête un peu parce qu'en fait, on souffre avant et on n'en parle qu'après.
Et c'est pas parce qu'il n'y a plus du tout d'hormones qu'on n'est pas gêné.
C'est ça. Ouais.
Et ça peut durer sans traitement? Ça peut durer combien de temps après?
Alors, il y a presque une femme sur trois qui va avoir 25 ans à peu près de symptômes complets entre les 11 ans avant et les 12 ans après.
Bon courage, mesdames.
Ouais, et c'est pareil, ça peut être, c'est pour ça que je dis que c'est plus long que la puberté, parce que ça peut être très très long et il faut s'autoriser aussi à l'idée que ça peut durer, qu'il faut en parler et que c'est pas quelque chose qu'on doit garder pour soi en disant que ça va passer, quoi.
Est-ce que toutes les femmes ont des symptômes ou est-ce qu'il y en a qui traversent tout ça sans rien ressentir?
Alors, il y a à peu près une femme sur cinq qui est la bienheureuse, qui va passer ça tranquille, qui aura aucun symptôme et qui va pas en souffrir du tout, et c'est cool, c'est très bien. Enfin, c'est vraiment une, pourquoi pas, si ça lui arrive, c'est chouette. Mais ouais, comme globalement, il y a 80% des personnes qui vont avoir des symptômes et qui vont être gênées par cette carence hormonale.
Alors, très curieusement, les symptômes n'ont pas la même fréquence et sont pas les mêmes dans tous les pays. Et pour prendre un exemple, le mot ménopause n'a pas d'équivalent dans la langue japonaise. Ouais. Les japonaises n'ont pas de ménopause.
Alors ça, c'est aussi une grosse découverte parce que historiquement, il y a 10 ans, j'aurais dit oui, le Japon, c'est le pays glorieux de la ménopause. Mm-hmm. 10% des femmes disent avoir des symptômes seulement, alors que nous, on est beaucoup plus nombreuses à en souffrir. Et puis, il y a un papier de Courrier International que j'avais récupéré qui m'a beaucoup marqué, en fait. En 2021, il y a plus de 400 000 femmes japonaises qui ont été retirées, enfin, qui se sont retirées du marché du travail à cause des symptômes de ménopause. Donc, c'est simplement que c'est encore plus tabou, je pense, au Japon qu'ailleurs. Et pour avoir discuté avec certaines femmes asiatiques, c'est dans d'autres cultures asiatiques, c'est pareil. C'est-à-dire que la ménopause, c'est quelque chose de vécu de terriblement honteux et donc on n'en parle pas. Et du coup, comme on n'en parle pas parce que c'est tabou, bah, on ne l'exprime pas et ce n'est pas pour autant qu'on n'en souffre pas, en fait.
Parce que du coup, on disait que ça pouvait être l'alimentation et notamment la consommation de soja en Asie qui pourrait expliquer ça.
C'est ça. Et donc, ça aussi, c'est...
Le mythe qui s'effondre.
Je suis tombée de mon arbre, pareil. Donc, on a beaucoup cru que le soja, parce qu'il y a des œstrogènes dans le soja, on pensait que c'était efficace et que c'est pour ça que ça expliquait pourquoi les personnes ne vivaient pas de symptômes. En fait, elles ne vivent pas de symptômes parce qu'elles ne les disent pas alors qu'elles les vivent. Et donc, on s'est pris beaucoup les pieds dans le tapis avec cette notion de soja, ouais.
Est-ce qu'il y a une hérédité dans ce domaine? Est-ce que si votre mère a eu peu de symptômes, vous serez pareil ou pas?
Alors, c'est un tout petit peu vrai, mais c'est pas vraiment vrai. C'est un petit peu comme si ma mère a une césarienne, je vais avoir une césarienne. Oui. C'est pareil, c'est un tout petit peu vrai. Mais globalement, c'est très individuel, la ménopause. C'est les hormones, c'est la vérité en spray. Hein. C'est pas exact, en fait. Et donc, ce qui arrive à la mère, ça donne une petite idée, mais il faut pas s'y accrocher parce que si c'était parfait, ce sera peut-être pas forcément parfait. Il faut s'autoriser à ce que ça ne le soit pas. Et puis, pareil, si c'était l'enfer pour ma mère, peut-être que moi, ce sera bien, en fait.
Il y a le vécu de ces femmes qui est important. Vous suivez de très nombreuses patientes qui arrivent à cette période. Est-ce que la façon dont elles l'abordent, cette période, ça va jouer sur les symptômes ou pas? Est-ce que ça influe?
Oui, l'estime de soi, c'est très important dans la ménopause. Et quand on a une estime de soi qui est dégradée, on vit beaucoup moins bien sa ménopause. Et si on, ça fait partie du jeu, ouais, cette notion d'être préparée, de savoir comment ça va arriver, de pas se sentir dépourvue. C'est pour ça que je voulais que l'information passe, en fait, et qu'on puisse savoir et se sentir prête aussi quand les symptômes arrivent, et surtout s'ils débordent et s'ils sont décompensés. C'est très important, ouais, de sentir cette estime de soi, ça compte.
On n'a pas parlé de l'arrêt de la fertilité qui va le plus souvent quand même avec. Est-ce que ça aussi, ça joue dans le vécu de ces femmes qui vont être ménopausées? Il y a quand même le couperet où on ne peut plus, là.
Oui, et ça, dans l'inconscient collectif, ça, la ménopause, ça veut dire c'est fini, quoi, en termes de grossesse.
Mais c'est pour ça que c'était un peu les femmes ne sont plus femmes.
C'est ça. Alors, est-ce que femme, c'est concevoir ou
non,
pas
concevoir? Non, mais c'est bien sûr, c'est pour ça.
Je suis pas persuadée que ce soit le cas.
Heureusement.
En plus, c'est un petit peu faux parce qu'on peut être ménopausée avant 40 ans et toujours avoir la potentialité d'être enceinte. Il y a entre 5 et 10% des femmes de moins de 40 ans.
Et c'est vu comme ça par la société, quand même.
Oui. Oui, oui. Alors qu'on peut très bien être infertile sans être ménopausée. Donc, il y a cette espèce de sensation que, encore une fois, ce diagnostic est en plus tardif, serait le symptôme de ça y est, c'est fini, c'est foutu. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus souple et beaucoup plus fluide que ça.
C'est un coup près, hein, qui est montré aux femmes.
Comme le mot pré-ménopause, d'ailleurs, hein, quand on en parle et qu'on dit, mais peut-être qu'aussi que c'est un des tabous. C'est pour ça qu'on a peut-être du mal à en parler de ça. Donc, cette notion que ça m'arrive, c'est fini, c'est foutu, alors que c'est pas tout à fait juste, et puis que peut-être que j'aurais, si j'avais pu en parler, il y a plein de choses qui sont inconcevables, qui sont pas dites autour de ça. Il y a des deuils qui sont peut-être pas encore faits. Puis ça file vite, en fait. 50 ans, on se rend pas compte, mais
il y a encore 30 ans à vivre au moins derrière, donc c'est quand même énorme. Vous avez passé vous-même cette période. Oui. Je voudrais savoir comment vous l'avez vécu. Et pour être tout à fait honnête, je dois préciser que vous êtes une femme trans. Votre transition s'est faite, vous l'avez faite à quel âge?
46. Donc j'ai commencé à 46 ans et j'ai commencé par ne plus avoir d'hormones, puisque c'est comme ça qu'on commence, avec des traitements qu'on donne, notamment dans l'endométriose ou le cancer du sein, et à vivre intensément les symptômes, du coup, parce que c'est un peu brutal. Avec justement ces sueurs la nuit et ce brouillard psychique qui, chez moi, vraiment, ça a été difficile. Puis les douleurs articulaires aussi. C'est compliqué au bloc opératoire d'avoir très très mal aux mains. Ça fait partie du jeu. Donc je l'ai vécu de cette façon-là. C'était un peu bienvenu dans le monde hormonal. Ça a été un peu dur de vivre ça en mode ménopause pour commencer. Ouais.
Et du coup, cette notion de malgré tout de coup près, de deuil de l'enfance, que vous l'avez vécu.
Oui, c'est vrai. C'est très paradoxal, c'est très étrange, mais on se pose des questions qu'on se posait peut-être pas avant. On se permet.
Mais d'autant qu'un homme n'a pas de limite d'âge, lui. Voilà.
Oui,
c'est très inégal, mais c'est.
Oui. Et puis comme on vit intensément le côté féminin, c'est peut-être aussi pour ça. C'est vraiment un sujet qui a été compliqué à aborder, notamment, je pense, comme beaucoup de personnes qui vivent l'infertilité, on s'est emporté une. Porter la vie, c'était important, et le fait d'avoir ce couperet, je pense que c'est quelque chose qui a été assez déstabilisant, ce plafond de verre.
Est-ce que vous pensez que votre regard sur ce vécu des femmes à l'abord de la ménopause était le même quand vous étiez gynécologue homme ou aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression que quelque chose a changé?
Alors, en titre personnel, je ne me suis jamais sentie comme ça.
Vous n'êtes jamais senti gynécologue homme?
Non, c'est très étonnant.
Donc vous aviez déjà un regard féminin?
Oui, hors sol, un peu par rapport à ça. Ça me semblait un peu inadapté. Je pense que ma vision, elle a évolué un petit peu comme la société a évolué, notamment sur la ménopause, sur le choix. Parce que j'avais une culture médicale, j'étais formée à maladies, traitements, le truc très carré, des arbres diagnostiques. Et quand je découvre la contraception, et notamment contraception mode d'emploi, où on apprend à laisser le choix aux gens, à laisser une porte ouverte, en fait. Et je pense que cette évolution autour de ça s'est faite aussi avec, d'une part, avec l'évolution de ce qui est devenu la médecine en 30 ans, et puis aussi le fait que je sois pas toute jeune, et que maintenant mes amis commencent à être ménopausés, donc ce qui est, et puis l'avoir vécu, je pense que, et ça fait passer du savoir, voilà, à la prise de conscience, et c'est surtout comme ça que je pense avoir vécu les choses.
Parlons du traitement hormonal de la ménopause. Dans les années 2000, il était pris par une femme sur deux. En 2022, il est tombé à 6%. On rappelle que cette défiance est venue d'une étude américaine qui était publiée en 2002, qui faisait le lien entre le traitement hormonal et l'augmentation du cancer du sein et des pathologies cardiovasculaires. Aujourd'hui, avec le traitement qu'on prescrit en France aux femmes, on en est où des bénéfices et des risques?
Alors, ce qui est très étonnant, c'est que même en 2000, on savait qu'il y avait plus de bénéfices que de risques, et tout le monde s'est concentré sur le cancer du sein parce que c'était à l'époque quelque chose qui était marquant, alors que la balance bénéfice-risque était déjà favorable, en fait. Quand on féminise un corps, évidemment, on va avoir plus de risques du genre féminin, mais on va avoir moins de risques du genre masculin. Donc, on sait, et notamment nous, particulièrement en France, on a quand même bien étudié la ménopause, je trouve. Il y a des études qui sont quand même belles. Et il y a toujours eu plus d'avantages, en fait, en termes de mortalité, sur le point de vue cardiovasculaire, sur certains types de cancers, sur le diabète. Il y a plein de choses qui sont positives. Et ça contrebalance normalement les effets négatifs de la féminisation du corps. Donc ça, on le sait déjà. Sauf que, comme tout le monde s'est concentré sur le côté négatif, et que, comme disait Indira Gandhi, les bonnes nouvelles ne font pas l'information, on s'est beaucoup concentré sur ce qui fait mal et pas tellement sur ce qui fait du bien. Et c'est pas qu'il faut taire les effets qui sont négatifs, c'est qu'il faut aussi dire que c'est une balance bénéfice-risque favorable, en fait.
Parce que c'est pas que l'amélioration des symptômes, c'est aussi un gain
en qualité de vie, ces
conséquences de la ménopause, quand même.
Oui, on a une qualité de vie qui est meilleure, on a un brouillard psychique qui s'améliore, on a... une vie, on dort mieux, on a aussi des effets cardiovasculaires qui sont intéressants, on protège de certains cancers. Enfin, c'est une consultation ménopause qui est une consultation assez sympathique, parce qu'on a une patiente qui est vraiment dans une souffrance psychique, physique, qu'il y a plein de facteurs, et puis qu'on voit fleurir un petit peu tout au long de la consultation et avec les mois qui vont passer. Et c'est vraiment chouette de voir un petit peu ces effets positifs quand c'est un choix, en fait.
Alors, il n'empêche qu'on reste malgré tout toujours très prudent aujourd'hui. D'ailleurs que beaucoup de gynécologues sont très frileux à proposer ce traitement, alors que effectivement vous dites bien ce qu'on sait aujourd'hui. Donc on le donne en général en disant faut réévaluer tous les ans et pas plus de tant d'années. C'est quoi la réalité? On peut le prendre tant qu'on a des symptômes de cette ménopause?
C'est une réflexion qu'on a eue en écrivant le livre, parce qu'en fait on n'écrit jamais un livre toute seule en vrai. Et on s'est dit... quand on est carencé en hormones, on complémente en hormones. Et quand on est carencé en hormones thyroïdiennes, on prend des hormones thyroïdiennes. Quand on est
à vie.
Et quand on est carencé en œstradiol et qu'on en souffre, il n'y a pas de rationnel à arrêter si la balance bénéfice-risque est toujours favorable. Or, on sait jusqu'à 70 ans. Après, la plus de 70 ans, on a un petit peu moins de données pour l'instant, mais on sait que c'est quand même toujours favorable. Donc, c'est vraiment une décision à prendre, que la personne doit prendre. Et c'est pas à nous, en tant que professionnels de santé, de décider pour la personne ce qu'elle doit faire. C'est à la personne, tous les ans, parce qu'on doit renouveler tous les ans. Pour l'instant, c'est comme ça que ça se passe. De dire, moi, je suis contente, je suis pas contente, je souhaite arrêter, je souhaite pas arrêter. C'est la discussion, elle est plus de cet ordre-là, je trouve.
Et puis, évidemment, de bien se faire suivre, notamment avec des mammographies régulières pour surveiller, évidemment, l'apparition d'un cancer du sein. Toutes les femmes peuvent pas en bénéficier, notamment, par exemple, celles qui ont eu des cancers hormonodépendants. Pour ces femmes qui ne peuvent pas l'avoir ou d'autres qui ne veulent pas, est-ce qu'il y a franchement aujourd'hui d'autres solutions efficaces? Pour les bouffées de chaleur, il y a, on le sait peu, un nouveau traitement non hormonal qui est disponible depuis peu en France. Oui. C'est quoi et qu'est-ce qu'il faut en penser? Parce qu'il y a une alerte récente en plus.
Oui, ça s'appelle le Veozah, c'est le nom commercial, c'est fésolinétan, c'est la molécule. Il y a toute une famille de molécules qui va arriver, il y en a encore une autre qui va arriver bientôt. Les chercheurs se sont dit qu'il fallait trouver une solution pour non hormonal, en fait, pour calmer un petit peu l'hypothalamus, c'est la petite zone du cerveau qui fait un peu n'importe quoi, la ménopause. Et donc, il y a des neurones qui s'appellent les candies, Et qui marchent pas très bien, qui font des neurotransmetteurs en fait, qui partent un petit peu en mode, ça part un petit peu en mode cacahuète, et c'est pour ça qu'on a des bouffées de chaleur. Et donc ce traitement-là, en fait, il va calmer l'hypothalamus sur cette partie-là. Ça marche bien, ça marche probablement presque aussi bien que les hormones de ménopause. Ça marche beaucoup mieux que ce qu'on proposait avant. Effectivement, faut faire attention aux fois pour cette molécule-là.
Et c'est l'alerte de l'agence.
Oui.
Mais
c'est vrai que c'est, alors c'est pas remboursé, c'est assez cher pour l'instant. Et c'est quelque chose qui est très prometteur, en fait, quand on n'a pas le choix ou quand c'est un choix de personne de ne pas prendre d'hormones et de calmer ces symptômes-là. Et pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est cet effet-là. Encore une fois, on est très concentré sur les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes et un petit peu moins sur les autres symptômes. Mais c'est vrai que c'est comme ça, on a la chance d'avoir des choses qui marchent aujourd'hui.
Et sinon, en dehors de ça, qu'est-ce qui peut marcher, notamment sur les bouffées de chaleur? Parce qu'on vante la phytothérapie, plein de choses. Franchement, ça sert à quelque chose ou pas?
Alors, pour l'instant, alors, sûrement ça doit fonctionner. Il y a sûrement des plantes qui doivent marcher. Mais de tout ce qu'on a étudié, c'est très décevant. Donc, toutes les classiques, les houblons, les machins, il y a plein de trucs, le trèfle des prés, il y a plein de choses qu'on a essayé. J'ai même vu le calcium, les lactobacilles. Globalement, il y a de tout ce qu'on a essayé d'un point de vue scientifique, c'est un peu un échec, alors qu'il y a d'autres choses en gynéco qui fonctionnent. Mais en tout cas, pour la ménopause, pour l'instant, c'est un peu la grosse déception. Et la phyto, ça marche pas très très bien.
Oui.
Il y a d'autres choses qui fonctionnent. Mais,
Par exemple, pour
les bouffées de chaleur, les sueurs la nuit et le vécu de la ménopause, la thérapie cognitivo-comportementale, par exemple, ça fonctionne. Il y a l'hypnose qui peut fonctionner aussi.
Oui.
Donc c'est des techniques qui fonctionnent.
Auxquelles on pense pas, effectivement.
Oui, ouais. Pourtant, il y a des études qui sont faites et voilà, on va avoir je ne sais pas si on parle de lésions diététiques, mais
bien sûr,
il y a le fait de faire du sport aérobie, donc de faire du cardio, ça peut améliorer un petit peu. Alors c'est peut-être pas magique, mais c'est toujours mieux.
Et c'est toujours actif sur l'os en plus.
Puis en plus, ça améliore l'estime de soi, donc c'est bon aussi pour plein d'autres facteurs. Et puis pour toute la partie génito-urinaire, on peut avoir il y a quelques études avec le yoga qui peuvent être intéressantes. Donc il y a quand même plein de choses qu'on peut proposer qui peuvent améliorer les symptômes. Il y a des médicaments qui sont peut-être moins efficaces que le Veozah, mais qui existent aussi. Donc, il y a quand même des choses. On n'est pas complètement pris au dépourvu.
Les chercheurs s'intéressent à la ménopause. Il y a des voies de recherche.
Oui, il y a des voies de recherche. En fait, la grande découverte, alors on ne le dit pas encore assez, je pense, en France, mais la grande découverte, c'est la quarantenaire. Donc, voilà, c'est vraiment l'apparition des symptômes. C'est pour ça que je pense que très bientôt, on va se désintéresser du diagnostic de la ménopause et on va s'intéresser un petit peu plus à la quarantenaire.
Et c'est vraiment. Et donc, simplement à l'apparition des symptômes,
c'est
en fait.
Ça. Et, de gérer ça, la carence hormonale comme elle est, c'est-à-dire une carence hormonale pas comme un facteur ménopause. Il y a les plus de 70 ans aussi sur lesquels on va commencer à avoir des études. On a certains traitements qui vont arriver aussi. On a parlé du Veozah, mais il y en a d'autres. Donc, il y a plein de choses qui sont assez enthousiasmantes.
Il y a une piste de recherche qui consisterait éventuellement à reculer l'âge de la ménopause.
Ouais.
C'est intéressant ou pas?
C'est assez compliqué parce que, hormonalement parlant, par exemple, quand on prend la pilule, on ne recule pas l'âge de la ménopause. Donc, il faut empêcher les cellules de vieillir trop vite. Et c'est ça, c'est difficile. Et donc, il faudrait agir sur l'ovaire pour l'empêcher de vieillir trop vite. Alors, il y a quelques pistes, c'est intéressant, mais on ne sait pas encore bien faire. Et pour l'instant, c'est vraiment en voie de recherche.
Et éthiquement, ça choque certains?
La question, c'est est-ce qu'on veut vieillir plus ou est-ce qu'on veut vivre plus? Et ça, c'est une vraie question. Et ça dépasse, je pense, le cadre de la médecine. C'est est-ce qu'on a envie de vivre plus longtemps en vieillissant plus lentement ou est-ce qu'on a simplement envie de continuer les effets physiologiques du vieillissement en se disant que c'est plutôt mieux de vivre ça comme ça? Je pense que ça, c'est la question, elle est vraiment centrée autour de ça.
On va continuer à parler des femmes avec la chronique d'Alexandra Delbo qui s'intéresse aujourd'hui à l'après-cancer avec le droit à l'oubli. Depuis 2016, les patientes qui ont eu un cancer ne sont plus obligées de le déclarer à leur assurance, leur maladie passée. Dans les faits, est-ce que c'est efficace? Écoutez.
Le droit à l'oubli tient-il ses promesses pour les anciens malades du cancer? Au départ, le droit à l'oubli, c'est un dispositif créé pour effacer ses données personnelles sur Internet. Mais depuis les années 90, les associations de patients revendiquent un droit semblable pour que les personnes guéries d'un cancer ne subissent plus de discrimination financière. Être oublié ici signifie pouvoir déclarer à son assurance emprunteur qu'on est en bonne santé comme tout le monde. Cette disposition a vu le jour en 2014 lors de l'annonce du plan cancer par François Hollande. Agnès Dumas est chargée de recherche à l'INSERM, au CESTIM, le laboratoire des sciences économiques et sociales de la santé à Marseille.
Il y a un moment où les associations de patients estiment que les personnes sont guéries. Donc c'est vraiment, ça a été ancré dans la question du cancer pour dire il n'y a pas de raison qu'il y ait des surprimes, qu'il y ait des exclusions de garantie, qu'il y ait même des fois des assureurs qui refusent d'assurer des personnes. Et donc cette décision politique, elle a été ensuite traduite dans le cadre d'une loi qui a été adoptée en 2016, qui est une loi sur la modernisation du système de santé, dans laquelle un article a été introduit pour justement donc permettre aux personnes qui avaient eu un cancer de ne plus avoir à déclarer d'avoir eu un cancer à l'assureur. Et là, en 2016, nous avons cette loi du droit à l'oubli qui propose qu'avant 18 ans, au tout départ c'était 18 ans, après la fin du protocole thérapeutique, au bout de 5 ans, quoi qu'il arrive, on n'a plus à mentionner le cancer à l'assureur. Et pour les personnes qui avaient été traitées à l'âge adulte, c'était 10 ans.
10 ans après la fin des traitements d'un cancer à l'âge adulte ou 5 ans si l'on était enfant, plus besoin de déclarer à son assurance qu'on a été malade. Et l'enjeu est énorme car sans assurance, pas de crédit, notamment immobilier. Mais est-ce que ce dispositif fonctionne vraiment? Est-ce que cette loi permet aux anciens patients et patientes d'accéder plus facilement à un emprunt? C'est ce qu'a voulu mesurer une nouvelle étude parue dans le Journal of Cancer Survivorship. Les scientifiques ont comparé les difficultés rencontrées avant et après la mise en place du droit à l'oubli, comme des surprimes, des exclusions de garantie ou un refus d'assurance. Et pour que la comparaison soit juste, chaque ancien patient ou patiente était associé à une personne témoin, du même âge, du même sexe, du même profil de santé, même statut tabagique, les mêmes comorbidités. Bref, tout était identique, sauf le fait d'avoir un cancer. Résultat, depuis la mise en place de la loi, les difficultés à obtenir une assurance ont nettement diminué, passant de 65 à 35%, alors que cette proportion est restée stable autour de 15% dans le groupe contrôle, mais les effets varient selon le type de cancer.
Après le droit à l'oubli, il y a une réduction globale des difficultés qui sont rapportées par les personnes. C'est assez flagrant et statistiquement significatif. Maintenant, quand on rentre effectivement dans le type de population, parce qu'on avait des personnes qui avaient été traitées pour un cancer du sein et des personnes qui avaient été traitées pour un cancer pédiatrique, eh bien, l'effet est très largement significatif pour les personnes traitées pour un cancer pédiatrique. Par contre, pour les personnes qui ont un cancer du sein, ça n'est plus significatif, même si on voit clairement une réduction. Mais voilà, on voit que sur les cancers pédiatriques, c'est quand même très significatif et donc il y a de fortes chances pour que, à l'avenir, ça puisse être aussi significatif pour les personnes qui ont été traitées pour un cancer du sein.
Alors pourquoi seuls ces deux types de cancers, celui du sein et les cancers pédiatriques, ont été étudiés ici? Tout simplement parce que ce sont les populations pour lesquelles on dispose aujourd'hui de plus de données de suivi. Et puis, ces cancers ont une autre particularité, ils surviennent souvent relativement tôt dans la vie, à un âge où l'on peut encore avoir besoin d'emprunter pour un logement, des études ou un projet professionnel. Et si les patientes atteintes d'un cancer du sein ne profitent pas encore pleinement du dispositif, c'est aussi assez logique. La loi date de 2016 et il fallait 10 ans pour être considéré comme guéri. Mais 10 ans, c'est long à l'échelle d'une vie, c'est pourquoi depuis 2022, une nouvelle loi, la loi Lemoine, a réduit ce délai à 5 ans et supprimé les questionnaires de santé pour tous les emprunts inférieurs à 200 000 euros. La prochaine étape pour les chercheurs et chercheuses serait donc de voir si cette réforme renforce encore l'accès au crédit pour les anciens patients. Et pour faire avancer la recherche, vous pouvez rejoindre la communauté des Sentinelles, une plateforme citoyenne et participative qui permet à chacun et chacune, que vous ayez été atteint d'un cancer ou non, de contribuer aux études sur la santé et le vécu des patients.
Docteur Linette, c'est effectivement important pour toutes ces femmes qui ont eu un cancer du sein, évidemment pour des raisons pour pouvoir emprunter, mais aussi moralement.
Ouais, en fait, je pense que quand on est guéri de quelque chose sur lequel on a, enfin ça chamboule beaucoup, avoir une affection de longue durée sur les épaules à traîner, ça a beaucoup de sens. Et quand on est guéri, on aimerait bien que ça soit passé, qu'on n'ait pas les stigmates. Et c'est vrai que c'est quand même, ce serait chouette vraiment que ça soit un peu plus marqué que ça, parce que cancer du sein, c'est cancer, on peut en avoir un, peut-être qu'on en aura un deuxième dans sa vie, et c'est pas pour autant que on sera morte après-demain. Ce serait bien que ça soit, que les gens fassent encore plus attention et que les assureurs arrêtent de stigmatiser trop ces personnes. Ouais.
Merci beaucoup, docteur Linet. Je rappelle votre excellent livre, La ménopause si je veux, chez Albin Michel, vraiment pour lever le tabou sur cette maladie, sur cette période de la vie. Je vais y arriver. Merci beaucoup. Et merci aussi à Anne-Claire Bazin pour la préparation de cette émission et à Souad Boukorsa qui l'a réalisée et mise en onde.